toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, les oreilles loin du front, et on va donc maintenant passer au dossier de cette émission consacré au réseau Éducation sans frontières et plus largement à la question des sans-papiers. Donc avec nous autour des micros, on a Clotilde, Dominique, qui sont toutes les deux militantes à réseau Éducation sans frontières, Monsieur Taina, qui est père de famille sans-papiers, et Gertrude, qui est lycéenne sans-papiers également. Alors pour commencer, je ne sais pas, Dominique, Clotilde, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est né ce réseau et pourquoi ?
D'accord. Bonsoir.
Il faut parler dans le micro.
Je m'approche. Donc c'est né à l'initiative d'enseignants qui ce genre de lutte où il y avait dans les établissements scolaires un jeune lycéen qui n'avait pas de papier. Ça fait quand même depuis quelques années que ça existe. Simplement, c'est vrai que c'était des luttes qui rencontraient pas beaucoup d'écho et les gens, le grand public n'était pas au courant. Donc, à l'initiative de quelques enseignants, il y a eu l'idée que ce soit plus fédéré et qu'on puisse donner un peu plus d'écho et puis que l'histoire de ces luttes, cette expérience, elle puisse servir aux autres. Voilà. Donc, à la suite de cet appel qui a eu lieu en juin 2004, il y a eu beaucoup d'associations signataires, de syndicats, donc entre autres le MRAP, la LDH, j'en oublie beaucoup, je m'excuse pour toutes celles que j'oublie, mais je ne peux pas les citer toutes parce qu'il y en a maintenant 120, voilà. Et le réseau sur Paris a démarré un petit peu plus tard. On a démarré en mars, au mois de mars 2005, voilà.
Et donc comment ça se met en place, comment ça s'organise ce réseau, comment ça fonctionne?
Eh ben, le principe de base du réseau, c'est que contrairement à la défense des sans-papiers adultes qui font des occupations et autres manifestations, nous on en fait aussi, mais nous on ne dépose pas de dossier collectif. Parce qu'en fait, on est parti de ce qui se faisait déjà avant. Comme disait Dominique, c'est des luttes ponctuelles où un jour, un élève disait à un prof, je peux pas aller, par exemple, au voyage en Grande-Bretagne ou je peux pas faire tel stage en entreprise parce que j'ai pas mes papiers. Et on s'apercevait que en mobilisant les enseignants d'abord de l'établissement, les élèves, les parents des élèves, et puis tout le petit réseau du quartier, on arrivait à gagner des papiers pour ce jeune. Avec souvent un soutien dont ne bénéficient pas les adultes sans papiers, qui font des luttes tout à fait honorables et costauds. Le soutien, il vient souvent du fait que ce sont des jeunes, des enfants, on les a emmenés ici, se retrouvent démunis, sans papier, en galère. Et souvent, on a le soutien de gens qui, d'habitude, ne soutiennent pas les sans-papiers. On voit des soutiens un peu étonnants, des fois, de parents qui sont pour la reconduite à la frontière des étrangers, mais qui vont soutenir tel élève parce que c'est le copain de classe, la copine de classe de leur enfant, parce que c'est leur élève ou l'élève du collègue d'à côté, puis qu'ils le connaissent. Et quand on le connaît, eh ben, ça change tout. Donc, le principe du réseau, c'est de construire des mobilisations sur la base de l'établissement scolaire, sur la base d'un quartier ou d'une petite ville. Et puis comme ça, on multiplie, on se repasse les trucs. Voilà.
Mais justement, sur les... Pardon, excuse-moi.
Ah non, je voulais juste, si on pouvait faire un petit point sur la situation juridique qui régit la situation des mineurs sans papier, parce que je sais que c'est pas la même que pour les adultes. De quoi ils relèvent juridiquement?
Alors les mineurs, ils n'ont pas besoin de papier en France. Hein, donc un mineur ne peut jamais être illégal sur le territoire français. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir. Le souci, c'est qu'arrivé à 18 ans, là, il devient un jeune majeur, et là, il fait une demande de titre de séjour. Et c'est à partir de ce moment-là, puisqu'il y a une réglementation assez complexe, par exemple, pour l'instant, mineur qui est arrivé avant 13 ans sur le territoire français, qui a été scolarisé pendant 5 ans, peut obtenir un titre de séjour. la loi, le projet de loi prévoit que malheureusement, il faudra qu'il soit arrivé avant 10 ans, si ça passe.
Le nouveau projet de loi Sarkozy,
voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là, on a par exemple beaucoup de jeunes qui viennent nous voir, des enfants qui ont été confiés, hein, par leur famille, en espérant qu'ils allaient pouvoir faire des études en France. Personne n'était évidemment au courant de cette législation qui dit qu'il faut arriver avant 13 ans pour obtenir des papiers. Donc on se retrouve avec des jeunes qui sont arrivés à 13 ans et demi, par exemple, et qui ont à peu près le même parcours que celui qui est arrivé à 13 ans, qui en plus est complètement déraciné, puisque ça fait 5 ans, et c'est quand même les 5 ans les plus importants, entre 13 et 18 ans, c'est là qu'on se construit. Et on lui dit, eh ben non, pas de titre de séjour, retourne chez toi. Ou des difficultés pour passer les examens. Donc c'est des situations insupportables.
Mais il y a aussi la situation des enfants français nés en France qui ont des parents sans papier, qui se retrouvent aussi avec des parents expulsables, et vous en occupez aussi.
Oui, alors ça, c'est pour les plus jeunes. Oui, enfin, effectivement, un jeune de 17 ans pourrait rentrer peut être menacé de ça aussi, oui. Voilà. Mais c'est vrai qu'au départ, le réseau Éducation sans frontières, c'est d'abord préoccupé des lycéens qui arrivaient à 18 ans. Et c'est vrai que l'application de la loi étant de plus en plus draconienne, le gouvernement a commencé à expulser des parents d'élèves. Et donc, notre mobilisation se fait aussi maintenant sur les écoles primaires, le collège.
Alors, en termes de mode d'action, d'après ce qu'on voit, vous fonctionnez beaucoup par Internet. Comment ça se passe quand un cas vous est soumis, comment ça se mobilise derrière?
Oui, alors c'est vrai qu'on a créé un réseau sur Paris, donc on a pas mal de contacts sur plusieurs arrondissements. Donc quelqu'un nous appelle et alors ça peut être un professeur, une assistante sociale, et on donne toutes les informations. Il faut aussi dire que dans notre réseau, on a la FCPE qui nous aide beaucoup à avoir des contacts dès qu'on a un cas sur une école, sur un collège, sur un lycée. On peut aussi très rapidement contacter la FCPE. On peut d'ailleurs nous contacter sur resfparis@yahoo.fr et puis visiter notre site où il y a une brochure, on a édité une brochure où on explique bien comment on peut faire ce type de mobilisation.
Mmh. Vas-y bien.
Non, juste, je voulais revenir. Il y a eu quelques mois, le réseau est apparu en pleine lumière parce qu'il y a eu un cas en Seine-Saint-Denis qui a fait énormément de bruit, sur lequel le ministère de l'Intérieur a même reculé. Est-ce qu'on pourrait revenir sur cette histoire, la raconter un petit peu sommairement, parce qu'elle est assez emblématique, si j'ai bien compris, du type de mobilisation que peut engendrer votre réseau, et de ce que vous disiez justement sur des formes de solidarité de parents d'élèves et tout qui étaient peu habituelles.
Oui, sur la mobilisation de Guy Eiffel, c'est surtout ses copains. Il y a eu la mobilisation de ses copains, ça a été énorme, des lycéens, des...
Parce que lui, il était en terminale et il avait 18 ans révolus, donc il rentrait dans...
Oui, il devait être expulsé puisqu'il avait un arrêté de reconduite à la frontière et il avait été arrêté, il était au centre de rétention. Voilà. Donc cette mobilisation, elle a été, à chaque fois, elle part de rien et puis elle devient assez massive. Et
c'est un peu difficile parce qu'il y a des... Il était très médiatisé, donc toi, tu t'en rappelles bien de ce voilà. cas-là. Nous, on en voit des centaines. Alors, Guy Eiffel, dans le 93, effectivement, il était aussi papa d'un enfant, hein. C'était encore plus dramatique parce que sa copine était là, il avait 19 ans, il allait se faire expulser. Et effectivement, il y a eu mobilisation de la part des enseignants, il y a eu pétition signée par des élus, bon, parce qu'on n'hésite pas à aller voir les élus, les députés, les sénateurs, les maires adjoints, enfin tout ce qui peut se présenter et qui peut nous soutenir. Et en fait, il a été mis, enfin, on l'a emmené à l'aéroport pour le mettre dans l'avion. Et là, il y a eu aussi une mobilisation qui est allée jusqu'à à l'aéroport, parce qu'on a aussi des liens avec les syndicats qui travaillent dans les aéroports, qui soutiennent notre action. Il y a eu des tracts diffusés. Les tracts, en général, sont diffusés. Bon, il n'y a pas que pour lui hein, que ça l'a fait. Hein. Lui, c'est celui dont on a le plus parlé. Mais en général, on donne des tracts aussi aux passagers de l'avion dans lequel va monter la personne qu'on veut reconduire à son pays. On essaie de prendre contact par le biais des syndicats aériens avec le commandant de bord, qui reste le seul commandant à bord, enfin le grand chef, un peu comme dans la marine, visiblement, ils ont l'air d'avoir des prérogatives. Et ce qui s'est passé, c'est que les passagers ont refusé de monter dans l'avion si lui, il montait, parce que comme il voulait pas monter, c'était obligé de le menotter, de l'enchaîner, de le scotcher. Il y a plein de techniques comme ça pour faire monter les gens de force dans un avion. Les passagers donc ont refusé de monter. Le commandant de bord a dit, visiblement, moi, je fais du transport de voyageurs. Mon avion, c'est pas un avion geôle, quoi. Et du coup, on l'a redescendu. Et comme il avait refusé de monter dans l'avion, lui aussi, il est passé en tribunal, en jugement, en tribunal. Bon. Et là, il y a eu quelque chose comme tout son bahut. Je crois qu'il devait être 800 en manifestation. Bon, il était à Bobigny, hein, donc c'était pas loin. Ils sont tous allés au tribunal d'instance à Bobigny. Grosse manifestation. Et puis, c'est vrai qu'avec la pression, la médiatisation, bon, bah, tout compte fait, il est resté là, quoi. Et on a gagné, pour l'instant.
Alors, est-ce que sur cette affaire, ça a fait une jurisprudence, puisqu'il y a une intervention du ministère de l'Intérieur qui lui a accordé un permis de séjour d'un an, si je me souviens bien. Est-ce que c'est quelque chose dont ont pu bénéficier les autres cas que vous défendez?
Et non, malheureusement, parce que ce type d'arrêté, il peut le préfet a un pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire qu'il peut selon qu'il évalue la situation, à titre humanitaire, donner un titre de séjour. Donc en fait, c'est en fonction de la mobilisation que le caractère humanitaire de la situation de la personne apparaît réellement. Sans mobilisation, ils n'en ont pas grand-chose à faire. On a le cas là dans le 20e, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a eu 4 écoles de la rue Olivier Métra qui ont été en grève pendant une journée. 250 personnes ont accompagné Madame Driouche au tribunal administratif. Et chose qui se voit jamais, elle a obtenu une carte de résident de 10 ans. Mais bon, sans mobilisation, il n'y a pas de côté humanitaire pour la préfecture, il faut le savoir. Très rarement.
Ben, on a avec nous deux personnes qui sont concernées justement par ces situations. Peut-être on va commencer par Gertrude. Tu es lycéenne donc dans un lycée hôtelier, d'après ce que je sais, et tu as bientôt 20 ans. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire?
Alors, franchement, c'est très dur, quoi. J'ai vu des moments difficiles, des moments de peur. Et puis voilà, quoi. J'arrive pas à comprendre que nous, en tant que lycéennes, qu'on puisse ne pas avoir des papiers, quoi. Déjà, je suis entrée en France depuis 2002, en août, et avec un visa, vraiment avec un visa. Alors, j'ai fait ma première demande en avril qui a été refusée, et donc ils m'ont demandé de quitter le territoire et tout. Bon, ce qui fait que, suite à mon assistance sociale du lycée, qui me venait donc en aide et qui a donc cherché le réseau des
Éducation sans frontières.
Voilà, d'Éducation sans frontières. Et puis, nous sommes arrivés là, quoi. Donc, voilà.
Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mobilisation donc derrière toi? Comment ça se passe?
Alors, sinon, la mobilisation, ça n'a pas encore vraiment commencé. C'est en cours, quoi, en procédure. Donc, voilà.
Et dans ton lycée, il y a des gens qui sont au courant, qui te soutiennent?
Je dirais oui, mes professeurs, mais j'ose pas parler à mes camarades de classe, aux élèves, à n'importe qui. Sinon, je crois que l'assistante sociale est la première personne déjà à être au courant, mon proviseur adjoint. deux ou trois de mes professeurs. Voilà quoi. Mmh.
Et donc, tu au niveau des demandes, c'est bloqué là.
Ouais, c'est vraiment bloqué. C'est vraiment bloqué. Et j'ai même, il m'invite à quitter le territoire, quoi. Mmh. Ouais, vraiment bloqué.
Alors sur un cas comme ça, parce que j'imagine c'est régulièrement que le réseau Éducation sans frontières est saisi de situations comme ça. Qu'est-ce que vous avez comme comme levier, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qui fonctionne quand il n'y a pas 300 parents et étudiants qui viennent manifester?
Ben c'est ça justement qu'on va essayer de monter. C'est-à-dire que ça fait pas très longtemps que l'assistante sociale effectivement du lycée de Gertrude a envoyé un message sur le net, hein, comme quoi ça sert. Donc c'est RESF Paris tout en minuscule @yahoo.fr. Elle a envoyé un message au secours. Au secours, j'essaye d'aider une élève sans papier, mais maintenant je sais plus faire, quoi, parce que c'est un droit un peu particulier. Et elle a dit dans quel lycée était Gertrude. Donc moi, quand j'ai vu ça sur mon ordinateur, ben j'ai pris mon petit téléphone, je l'ai appelé, je lui ai dit bon, je viens vous voir. Et puis c'est là que j'ai rencontré son assistante sociale et Gertrude. Et qu'on a fait un peu le point de l'état où on était. Ce qu'elle dit pas, Gertrude aussi, c'est qu'elle est toute seule aujourd'hui. C'est-à-dire que toute sa famille est en France, mais elle vit toute seule. C'est-à-dire qu'elle vit dans un foyer où il y a une prof qui a réussi à la faire admettre, à ce qu'elle ait une chambre gratuite parce qu'elle peut pas travailler, hein, puisqu'elle est lycéenne. Ah. Donc il y a ce problème-là. Le lycée, de son côté, s'est arrangé pour qu'elle ait la cantine gratuite le midi. Bon. Qu'elle ait au moins un repas par jour. Et puis après, ben, c'est une situation, je dirais, d'abandon général, quoi. Et c'est vrai qu'elle a absolument besoin de papier. Alors, elle avait fait une demande, effectivement, au mois d'avril, avec refus. Bon, elle l'a faite toute seule aussi. Elle l'a faite sans l'aide d'une association. Donc, c'est vrai que c'était le minimum. Et puis, quand c'est le minimum, eh ben, la préfecture, elle s'en fout, quoi. Oh, bon, il n'y a personne derrière. Allez, hop. Et refus, invitation à quitter le territoire. Et là, ça fait une dizaine de jours à peu près qu'on a pris contact, quelque chose comme ça. Mmh. Et le problème, c'est que dans toutes ces pérégrinations et ces galères, elle a perdu la lettre de refus de la préfecture. Et nous, on va faire un recours gracieux. Quand on aura retrouvé l'argument qu'ils ont mis sur la lettre, parce qu'il faut qu'on voie quel argument ils ont développé pour refuser son titre de séjour, à partir de ça... on va déposer un recours gracieux. On demande toujours aux élèves s'ils sont d'accord pour que tout le monde sache leur situation. Parce qu'on ne peut pas mobiliser s'ils veulent rester dans la clandestinité. Donc c'est en dernier recours eux qui décident. Bon, visiblement, elle est d'accord pour que tous les professeurs soient au courant. On va aller à la rentrée, là, après les vacances de février, dans le lycée, avec plusieurs personnes du réseau Éducation sans frontières 19e, pour leur expliquer un petit peu comment ça se passe, qu'on leur propose, et leur dire, c'est à vous de vous mobiliser, c'est vous qui allez faire gagner Gertrude. C'est les professeurs, c'est les pétitions, c'est les courriers de chaque professeur la soutenant, c'est les pétitions qu'on envoie dans le quartier, aux parents des élèves, aux voisins, c'est les pétitions des lycéens, et puis c'est nous aussi la pétition qu'on va aller porter aux élus qu'on connaît, qui peuvent soutenir ce type de démarche, vu le caractère un peu aussi exceptionnel de sa situation, quoi. Elle est abandonnée toute seule à Paris. Et on va essayer de monter ça, et on croise les doigts pour que sa situation soit réexaminée et qu'elle ait un titre de séjour avant la fin de l'année, parce qu'à partir de la fin de l'année scolaire, normalement, tous les élèves scolarisés sans papier sont susceptibles d'être envoyés dans leur pays.
Love me, whoa, 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 we gonna love me, whoa, 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 we gonna. be so much. And after what are we doing? We have to do just only one thing. We're gonna love me.
Voilà, toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Les Oreilles Loin du Front. On reçoit ce soir le réseau Éducation Sans Frontières. Et donc, à nos côtés, il y a des militantes, de dynamiques militantes du réseau. Et puis, des gens qui sont confrontés à la législation actuelle sur le droit du séjour des étrangers. Alors, Gertrude nous a un petit peu expliqué, qui est lycéenne, nous a un petit peu expliqué sa situation. Mais il y a aussi Monsieur Taïna qui est avec nous. Peut-être en quelques mots, vous pouvez nous expliquer dans quelle situation vous trouvez aujourd'hui et qui fait que vous êtes là avec nous ce soir.
D'accord, merci. Donc, je suis un père d'une fille scolarisée au 11e. Et j'ai quitté Madagascar en 2002, au mois de mars, pour des raisons politiques. Donc, depuis mon arrivée ici, j'ai demandé l'asile politique. Et la commission de recours, l'OFPRA, a rejeté ma demande trois fois. Donc, moi et ma femme, nous avons cherché quelque chose pour avoir les papiers. On a contacté le réseau Éducation Sans Frontières et on a trouvé des personnes... qui travaille avec nous là maintenant.
Alors, pour ce qui a été de la scolarisation de votre fille, y a pas, comment ça se passe? Il n'y a pas de soucis? Ça se fait facilement? Quand on est demandeur d'asile, c'est quelque chose qui se fait facilement?
Quelle que soit la situation, hein, la loi, c'est écrit dans la Constitution, la loi, c'est tout enfant qui réside sur le territoire français doit être scolarisé, quelle que soit la situation de ses parents. Et ça, c'est une loi à faire respecter. Il y a eu quelques années où il y a des mairies qui ne voulaient plus la respecter. Et ça aussi, c'est un combat à mener pour que ce soit respecté. Quelle que soit la situation des parents, les enfants peuvent être scolarisés.
Et il reste à gagner le fait que la scolarisation soit bien adaptée aux problèmes linguistiques que peuvent rencontrer les enfants quand ils arrivent. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de mères qui, sans refuser de scolariser des enfants, refusent que des cleans, des classes d'adaptation pour les non-francophones soient mises en place.
Oui. Enfin, ça, c'est pas du ressort du maire, hein, logiquement. Le maire ne peut pas empêcher une classe de clean de s'ouvrir, logiquement. Bon. Mais les classes de clean, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y en ait encore beaucoup plus et puis qu'elles soient encore beaucoup plus performantes. Mais bon, c'est déjà un petit pas qu'a fait depuis 1970 l'éducation nationale vis-à-vis de ces personnes qui arrivaient en France, de ces enfants qui arrivaient en France sans connaître le français.
Alors, Monsieur Taïna, comment vous avez pris contact avec le réseau Éducation sans frontières? Comment vous avez connu ce réseau?
Donc, il y avait une copine de ma fille à l'école. Et c'est cette dame qui nous a demandé qu'est-ce que vous avez comme problème, parce qu'avant, on a eu peur de parler notre problème aux Français. Mm-hmm. Et c'est cette dame qui nous a envoyé à l'association Éducation, Réseau Éducation sans frontières.
Mm-hmm. Alors, d'après ce que je sais, il y a une pétition qui a circulé pour vous soutenir. Donc, on en est où aujourd'hui?
Ah ben, on continue à récolter des signatures et puis on a eu l'appui d'un élu du 11e, on essaye d'avoir des appuis d'élus. On a aussi commencé à faire des recherches par rapport à la situation politique de Madagascar pour bien montrer que ces personnes étaient en danger si elles étaient expulsées. On continue ce travail-là, voilà. Et on espère qu'il va aboutir. Mmh.
Alors tout à l'heure, vous parlez de la mobilisation nécessaire des autres parents, des autres élèves. Comment dans votre situation ça se passe? Vous avez donc cette personne qui vous aide. Est-ce qu'il y a d'autres parents d'élèves qui sont venus les rejoindre et qui vous aident eux aussi? Est-ce qu'il y a cette mobilisation telle qu'en parlait Clotilde et Dominique tout à l'heure, cette mobilisation nécessaire qui se met en place?
Les parents d'élèves sont déjà derrière nous. Il y a des habitants qui vivent à côté de chez nous. Et on a demandé, même aux banlieues, aux provinces, par Internet. Et on a 340 signatures là maintenant.
Oui, ce qui est intéressant dans cette organisation de réseau, c'est que chaque parent d'élève connaît d'autres personnes, peut connaître des élus, ouvre des portes, et que ces mobilisations, elles font assez rapidement, elles rencontrent beaucoup de soutien, elles peuvent rencontrer beaucoup de soutien.
En même temps, pour des cas comme ça, Sarkozy avait mis une circulaire en octobre disant qu'il n'allait pas mettre à exécution, l'éloignement des familles dont les enfants étaient scolarisés, et les enfants qui sont scolarisés en France ne peuvent pas être expulsés. Donc, qu'en est-il pour ce genre de cas, finalement? Est-ce qu'il a respecté ses promesses ou...
Bah écoutez, pour l'instant, cette famille est encore avec nous, mais je ne sais pas si vous avez été au courant, on en a parlé un peu dans la presse ce week-end pour M. Kojohan qui a failli être expulsé. Hein. Là aussi, on était prêt à aller à l'aéroport pour prévenir les passagers qui refusent d'attacher leur ceinture. Mais là, il y a eu une appréciation de la circulaire, une lecture de la circulaire tout à fait particulière de la part de Monsieur Larrivé, qui a dit qu'un seul membre de la famille, c'était suffisant pour que les enfants puissent terminer leur année scolaire. C'est-à-dire qu'on envisage de séparer le père de ses enfants et de sa femme et de le renvoyer dans son pays d'origine, mais on laissera effectivement la femme et les enfants seuls et complètement démunis, continuer jusqu'au mois de juin. C'est une des grandes mobilisations qu'il va falloir qu'on crée, parce qu'au mois de juin, il n'est pas possible, il n'est pas question pour nous de laisser faire et de laisser que toutes ces personnes soient expulsées.
Voilà. Alors moi, je m'étais arrêté sur les questions du droit, c'est que des parents d'enfants français ou des parents d'enfants légalement sur le territoire français qui refusaient de partir de leur plein gré ne pouvaient pas être expulsés. Alors il y a eu des couches successives de lois. On en est où aujourd'hui? Juridiquement, ça repose plus? Ça fonctionne encore ou pas, ça?
Ben, quand ils refusent de prendre l'avion, ils vont au tribunal. Quand tu refuses de prendre l'avion pour retourner dans ton pays, tu es... Tu peux être condamné jusqu'à 3 mois de prison.
Donc on peut prononcer des arrêtés d'expulsion sur des gens dont les enfants sont scolarisés en France, vivent en France.
Bien sûr, bien sûr, là, il y a eu des tas de cas cette année où ça a été en tout cas tenté, et malheureusement, ça a été fait.
Mais ce qui est intéressant à remarquer, c'est que, pour revenir à RESF, c'est que je disais qu'il y avait des centaines de cas. Alors, ça marche bien le net, hein, s'en est bien servi. Il y en a partout, même dans des tout petits villages où des gens complètement étonnants soutiennent le sans-papier, là, qui habite à côté, et la famille, les enfants. Et que c'est suite à toutes ces luttes qui se sont multipliées à une vitesse absolument incroyable dès que le réseau a existé. Et ça a été tellement efficace. C'est pour ça que Sarkozy il a fait cet arrêté au 31 octobre pour calmer un peu le jeu, disant « Ah, on n'expulse pas pendant la période scolaire ». Oui, mais le 7 juillet, on va faire quoi? Il va affréter 25 charters pour envoyer tous les gamins, les familles dans le monde entier, quel que soit le pays. Parce que quand même, il faut dire que les trois quarts des cas qu'on voit, hein, des élèves que nous défendons, qui arrivent à leur majorité, ce sont des élèves qui viennent de pays où moi j'aimerais pas y vivre, quoi. C'est visiblement des pays en conflit, en guerre. C'est le Congo démocratique, l'ancien Zaïre. C'est la Côte d'Ivoire. Là, il y en a incroyablement. Enfin, il y a un nombre incroyable. Et en plus, quand on voit leur nom, qu'on voit la langue qu'ils parlent, on comprend tout de suite. C'est pas la peine qu'ils nous disent qu'ils viennent du Nord, que ce sont des Ivoiriens du Nord, donc qui sont persécutés depuis 2002. Qui sont abattus, les femmes sont violées avant de se faire égorger, etc. Enfin, toute la famille y est passée, des fois, il n'y a qu'un seul survivant. C'est tous des pays où on vit un drame au quotidien. Et on ne change pas de pays pour rigoler, pour s'amuser. On ne déménage pas comme ça à l'autre bout du monde par plaisir. C'est-à-dire, si les gens ils sont là, si ces enfants ils sont là, c'est bien parce qu'ils ont fui quelque chose de plus effroyable. Et à un moment, les mettre, regarder deux, trois bouts de papier, mettre un tampon et les renvoyer au pays, c'est souvent les renvoyer à la mort. Et pour les jeunes femmes, c'est les renvoyer aussi dans un pays où la situation des femmes, elle est franchement pas reluisante, quoi. C'est le mariage de force, c'est le viol de fait, puisque le mariage de force, c'est un viol, c'est la polygamie, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler, c'est toutes ces difficultés-là. Et je dirais que, en plus, moi, quand je vois des jeunes filles, je suis encore plus touchée, quoi. Je me dis qu'il y a un double travail à faire. Les protéger contre la guerre et les protéger aussi de la maltraitance que subissent toutes les femmes dans ces pays-là.
Alors, Gertrude, moi, je vais te poser une question digne d'un ministre de l'Intérieur, parce que les copines disaient tout à l'heure que tu vis une situation pas facile. On pourrait te demander si tu préférerais pas rentrer, justement, dans ton pays et que, finalement, l'expulsion ne serait pas si méchante que ça. Enfin, je m'excuse de dire des choses comme ça.
Alors, moi, je dirais que, déjà, je ne veux pas rentrer dans mon pays parce que toute la famille est ici, malgré qu'on n'est plus ensemble, on ne s'entend plus. Je ne sais pas si je peux oser dire qu'il se passe des conflits entre nous, ce qui fait que je suis même toute seule déjà pour commencer. Donc, je n'aimerais pas rentrer dans mon pays, sinon je vais me retrouver toute seule. Donc, et rester aussi dans ce pays et vivre sans papier, c'est très dur, quoi. C'est rester bloqué contre les quatre murs, ne pas savoir quoi faire, ne pas savoir à qui s'adresser, avoir tout le temps peur. On se dit toujours, si je fais ceci, est-ce qu'on va m'attraper? Si je fais cela, est-ce que c'est pas la police? À chaque fois, quand on voit la police, on se dit, eh ben, tiens, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Bon, il faut être correct, il faut avoir son ticket de métro, il faut être droite, donc... Voilà, quoi.
Alors, j'ai entendu que dans l'Oise, il y avait le... Alors, je ne sais pas, je crois que c'est le directeur de l'académie qui avait demandé au proviseur de justement faire un listing des élèves sans papier en donnant aussi leurs résultats. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de cette chose?
Effectivement, oui, c'est, ça a certainement été un ballon sonde. Et puis, je pense qu'ils tâtent le terrain pour voir si on va pouvoir généraliser ça. Le recensement des élèves qui arrivent, pas forcément les majeurs, hein, ceux qui vont arriver à leur majorité. Donc, des fois, c'est signalé aussi ceux qui ont 17 ans, 17 ans et demi, qui seraient susceptibles d'être sans papier. Bon, bah, c'est du fichage digne du pétainisme. Enfin, on se rappelle comment ça a fini. Il y a une grosse réaction de la part des syndicats enseignants qui sont tous dressés contre ce type de mesure. Et il y a effectivement, heureusement, je ne sais pas si c'est tous les chefs d'établissement sont sur le même modèle, mais on en connaît un certain nombre et qui ont été particulièrement outrés de ce qu'on leur demandait de faire. Qui disaient, mais moi, ce n'est pas mon travail. Moi, je suis là pour protéger les élèves, pour protéger, même s'ils ne sont plus mineurs, je suis là pour les protéger dans un sein de l'établissement, leur permettre d'étudier et après de vivre convenablement. Je ne suis pas là, je ne suis pas un délateur. Alors, c'est vrai aussi que ça va... C'est un truc qui avait été tenté d'être fait il y a quelques années sous prétexte d'un article 40 qui disait que les fonctionnaires d'État devaient dénoncer tous les gens qui contrevenaient à la loi. Et il y a 5 ou 6 ans, on a demandé aussi aux instituteurs de signaler les enfants des parents sans papier dans les écoles. Et je me rappelle que ça avait été un tollé général, c'est-à-dire que même les gens qui votent à droite, qui ne sont pas très conscientisés, qui ne passent pas leur temps à se battre pour les sans-papiers, avaient dit non, là, c'est trop. Et ils avaient mis la pédale douce, on ne nous demande plus ça en tant qu'instituteur. Bon, ils ont été chopés un peu plus haut, les chefs d'établissement.
Alors, sur la question de la combinaison avec la régularité du séjour, résultat scolaire, on connaît ça aussi à la fac. Où on donne des titres de séjour d'un an aux étudiants à condition qu'ils passent dans l'année supérieure. C'est-à-dire qu'on on leur dénie une partie du droit des étudiants qui ont le droit de s'y reprendre à deux fois pour réussir un examen, qui peuvent avoir fait une erreur d'aiguillage et puis vouloir repartir sur autre chose ou se planter un examen tout court. Et ça fait partie aussi quand même de l'idéologie qui est actuellement un petit peu en place autour de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut être performant, sinon on n'accepte pas.
Mais ça date pas d'hier, ça. Hein,
non. J'étais étudiant quand il y avait ça. On s'est battu contre ça.
C'est le même principe qu'il y a pour les boursiers. Hein. Je sais pas si t'étais boursier, mais quand t'es boursier, tes parents ils sont pas drons, tu redoubles, t'as plus ta bourse. C'est-à-dire que ça double, c'est la chasse aux étrangers et aux étrangers pauvres. Voilà. C'est-à-dire que c'est les deux couches qui se succèdent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand t'es bon élève, ça va, quand t'es pas bon élève. Si t'es mauvais élève, mais que tes parents sont étrangers, qu'ils ont du fric, un titre de séjour, que papa il est gynécologue ou architecte, ça va. Mais si ton papa il est sans papier ou s'il est balayeur, c'est retour case départ, c'est fini.
L'Uma è la mia frase, dice una raia di soleil. Siamo poderosi e va a bene di chi sono. Yes, il lavoro è la salute. Yes, non è l'homme più lavoro, mi crebi a l'ubradi. Lavoro per compa, vorrei essere che sembra sia un comodo. Nous sommes les vivants. Son carregati la televisione, mesi giamai, mes amici, ma gli cieli sono tutti un ben vesti. L'umerca farà la lei, esatto che ci fa gau. L'umerca farà la lei, mai che fa la lei a fare l'inganno, e sa già che le vivan, sono a lavorare.
croire qu'ils nous sommes experts du genre humain, aiguisent leurs croyances à leur convenance. Ils ont renoncé bien vite à leurs illusions, ils ont renoncé, commencé à s'armer. Nous sommes les vivants, ils ont cessé d'aimer, criminalisent les vivants. Nous sommes les vivants.
Voilà, toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. Alors, on reçoit aujourd'hui les gens de réseau Éducation Sans Frontières, enfin, une partie d'entre eux, puisque c'est un large réseau. Vous les entendez, donc, pour une fois, pas sur le net, mais à la radio. Donc, on a avec nous Clotilde, Dominique, Gertrude et monsieur Taina. Et je me disais en vous écoutant que dans cette chasse aux immigrés qui s'organise avec la succession de lois qu'on peut connaître, de gauche et de droite d'ailleurs, la question des enfants, des étudiants, des lycéens, tout ça, ça devient, on a l'impression que ça devient un peu un point critique, un point de rupture où ça peut, où on se met à attaquer quelque chose qui va trop loin. On se met à attaquer des enfants, on se met à attaquer des jeunes, des étudiants, et qu'il y a là un espèce de pivot qui fait que le système de chasse aux immigrés tel qu'il se fait classiquement dysfonctionne, et que vous avez un rôle, enfin c'est aussi pour ça qu'on a souhaité que vous veniez ce soir. Vous êtes un petit peu sur cette dernière endroit où on arrive encore à faire entendre un petit peu raison sur ces questions là
Oui, moi je pense, quand on entend à la télévision qu'il va y avoir 23 000 expulsions dans l'année, ce qui était prévu pour 2005, qui a été pratiquement réalisé, et maintenant les chiffres qui ont été demandés au préfet, c'est 25 000 expulsions en 2006, ça ne veut rien dire pour les gens. Et quand c'est quelqu'un qui connaisse, là, ça prend tout son sens. Quand c'est un enfant, mais je pense aussi quand c'est quelqu'un qui connaisse, hein, mais un enfant encore plus. Et c'est là aussi qu'on s'aperçoit que tout ce discours qu'on entend un peu partout, où on désigne les immigrés comme des boucs émissaires, ça ne marche plus. Ça ne marche pas. Là, les gens ont une prise de conscience qui est... Nous, on est sidérés quand même. C'est Monsieur Cojohan, c'était en 15 jours son école, tout le monde s'est mobilisé autour de lui pour éviter son expulsion. Donc c'est en même temps très positif. Ça nous laisse espérer quand même qu'il peut y avoir un retournement de situation.
C'est la faille aussi, c'est la faille. C'est-à-dire qu'effectivement, ça fait des années que les sans-papiers collectivement mènent des luttes, jusqu'à Saint-Bernard, qui a été le truc le plus médiatisé, où là, tout le monde a trouvé ça un petit peu fort, quoi. Bon, oh, quand même, ils exagèrent, même les gens les plus... les moins de notre côté, on va dire.
Même Gilles de Robien avait trouvé que c'était aller trop loin.
Voilà, c'est pour le dire... Mais quand c'est des enfants, effectivement, là, ça fait une faille, parce que les enfants sont pas responsables du fait qu'ils sont là, parce qu'ils ont pas choisi, parce qu'ils sont victimes, parce qu'ils sont petits, parce qu'ils sont innocents, parce qu'ils sont pas responsables des choix de leurs parents, parce qu'ils sont pas responsables de la guerre. Et du coup, c'est vrai que c'est la faille, là. Et là, on a beaucoup plus de soutien de gens un petit peu atypiques qu'il n'y en a pour les sans-papiers. Notamment, pour une jeune Ivoirienne du 19e, nous, on a réussi à avoir la signature de Benisti, celui qui a fait le célèbre rapport. Et ben, il a appuyé la demande de titre de séjour d'une jeune fille ivoirienne dans un collège du 19e. Et il a écrit une petite lettre au préfet de Paris en disant « Je vous prie, s'il vous plaît, cher collègue, nanana, petit mot manuscrit à la fin, etc. » Et ben, la gamine, elle a eu ses papiers en 3 semaines. Et on s'est demandé... comment ça se faisait que ce monsieur-là, il avait signé. Enfin, On y est allé parce qu'il y a une professeure du collège de la gamine qui habite dans sa ville. Donc, elle est allée voir son maire. Comme ça, on lui dit, oh, bah, si tu veux, vas-y, mais à mon avis, t'as peu de chance. Et en fait, ben, c'est des contradictions de la nature humaine, quoi. Bon, nous, dans ces cas-là, on crache pas dessus. On avance.
Moi, je me souviens, ça me rappelle les d'autres étapes du mouvement des sans-papiers, parce qu'on avait à un moment donné la mobilisation par les parrainages qui posait beaucoup de questions, puisque les mobilisations collectives de défense de grands principes peinaient un petit peu. Et là, d'un seul coup, il y a eu une déferlante de gens qui venaient soutenir, mais qui venaient pas soutenir les sans-papiers, ils venaient soutenir plein de bourgeois qui venaient très bien habillés avec leurs femmes de ménage, qui disaient et qui voulaient la parrainer, tout ça. Et c'est toujours cette articulation difficile entre des cas individuels qui sont finalement aujourd'hui les seuls sur lesquels on peut encore avancer et une lutte collective qui est beaucoup plus difficile à appréhender.
Mais cette campagne de parrainage, elle a repris. Il y a eu deux lycéens à la mairie du 20e qui ont été parrainés il y a une quinzaine de jours. Il y a eu quatre familles qui ont été parrainées le 1er février dans le 20e. Et là, on s'est bien dit qu'on ne faisait pas ça à titre individuel. C'est-à-dire qu'il y a des collectifs qui se sont créés, des collectifs de soutien qui se sont créés autour de ces familles. Et voilà, il n'y a pas un parrain bien gentil qui va vaguement soutenir cette famille. Ça va être le... C'est ce parrainage, c'est le côté symbolique qui est intéressant, mais le collectif se démobilise pas. Il n'y a pas de démobilisation de la part du collectif, et tout le monde va continuer à soutenir ses familles. Et entre autres, il faut quand même remarquer que pour chaque famille, un élu a parrainé la famille.
Alors l'émission se termine, on a nos amis malgaches qui commencent à arriver puisque dans le studio. On va redonner les coordonnées du réseau Éducation sans frontières. J'imagine si on met RESF, ce que j'ai fait tout à l'heure, RESF sur n'importe quel moteur de recherche, on tombe sur vous et sur les dizaines d'appels à signer pour vous soutenir. Sinon, il y a d'autres coordonnées.
Sinon, il y a un site que je recommande à tout le monde. C'est www.educationsansfrontières, tout en attaché, tout en minuscule, frontières avec un S, .org. Et sur le site, vous pouvez télécharger gratuitement une superbe brochure qui s'appelle « Jeunes scolarisés sans papier », qui explique un peu comment monter des mobilisations et qui donne les éléments de droit. La brochure, elle a été réactualisée en décembre par les groupes qui appartiennent, les plus pointus sur le plan juridique qui appartiennent à RESF, comme le GISTI, la CIMAD, MRAP, LDH, etc. Et c'est les juristes de ces groupes-là qui ont peaufiné la dernière brochure au mois de décembre. Ça vaut le coup de la télécharger, vous saurez tout. Bon, pas tout, mais vous saurez le gros du processus et comment aider votre voisin, le fils de votre voisin, le copain de votre fille au lycée qui n'a pas de papier.
Alors pour terminer cette émission, on va laisser la parole à nos autres invités. Gertrude, si le principe c'est de se faire connaître et de faire savoir. Alors, peut-être toi, te laisse. Comment tu vois la suite? Qu'est-ce que tu attends? Je sais pas.
Alors, espérant attendre une suite favorable, je tiens à remercier le réseau d'éducation sans frontières et que peut-être que tous ceux qui ont des problèmes peuvent passer par eux. Donc voilà quoi. Merci au réseau Éducation sans frontières qui nous apporte beaucoup de soutien et beaucoup d'aide. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Monsieur Taïna, est-ce que votre le combat autour de vous continue, la mobilisation continue?
Pour moi, nous avons besoin de tous pour soutenir notre démarche. Je remercie beaucoup tous ceux qui participent aux pétitions. Et nous sommes prêts à s'intégrer à la vie française.
Vous savez pas, voilà. On espère que vous trouverez des issues favorables. On vous remercie d'être venu. Nous, si ça tenait qu'à nous, on vous garde. Vous êtes de très bons clients pour la radio. Voilà, merci beaucoup, bon courage.
Hein?
Comment? Ah, mais vous revenez quand vous voulez. Et effectivement.
Il va y avoir deux grandes étapes. Le premier.
Alors attends, tu vas prendre un micro pour parler.
Donc, il y aura une prochaine grande date, le 1er avril, où on pense faire une grande journée de témoignages, aidés en cela par les intellectuels français, entre autres. Et puis, au mois de juin, il faut vraiment qu'on mobilise un maximum pour empêcher tous ces retours.
Eh bien voilà, merci. Donc, vous revenez quand vous voulez.
D'accord,
à bientôt.
Ben,
on approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était donc une émission Les Oreilles Loin du Front sur Fréquence Paris Pluriel. On avait ce soir autour des micros, autour des boutons, Jérémy et Cédric qui, eux, ont surtout parlé biberon. On avait Juliette qui était sans l'autre Juliette. On avait Alexandrine qui avait donc préparé cette émission elle toute seule, même si je lui ai piqué sa parole tout le temps. On avait Guillaume qui nous a expliqué le sens du mot « cafarnaeux ». Et puis, on avait Fred qui, lui, avait gardé consciencieusement ses doigts sur les boutons. La semaine prochaine, il paraît qu'on vous diffusera à l'antenne les caricatures du prophète. Et puis, d'ici là, on vous abandonne dans les bras d'Écho du Capricorne, une émission malgache, puisqu'il y a sur cette antenne toutes les semaines une émission des malgaches. Voilà. Bonne soirée.